When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Produit par Binge Audio.
Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Michel Ardoin, dit le porte-avions, avec qui j'ai fait un livre qui s'appelait Une vie de voyou il y a une quinzaine d'années. Michel Ardoin, le porte-avions, dit portave. Hein. Alors ce qui l'a rendu célèbre, ce garçon, c'est qu'il avait été associé de Jacques Mérine, comme on dit, hein, de Mesrine pour les non-initiés, l'ennemi public numéro un des années 70, de la deuxième partie des années 70, et ça avait été un de ses associés. Il l'avait notamment fait évader du tribunal de Compiègne. Donc Michel était allé le chercher, il cachait des flingues dans les toilettes du tribunal, etc. Bon voilà, ça l'avait rendu assez médiatique, y compris dans le milieu, c'est-à-dire auprès des voyous, etc. Et c'est d'ailleurs Mérine qui lui avait donné ce surnom de porte-avions. Un jour, il montait sur une banque à Stalingrad, à Paris, au métro Stalingrad, là, dans le 19e. Il y avait Mérine, il y avait Portave et un troisième Lascar. Ils étaient en train de s'équiper dans l'appartement qui leur servait de planque. Donc ils mettaient des gilets pare-balles, ils se mettaient des calibres partout, etc. Michel avait pour habitude de mettre deux énormes flingues. Je crois que c'est des Colt 45, je sais pas quoi. Enfin, des trucs à l'inspecteur Harry, là, des énormes pistolets automatiques. Et il en prend, je crois que quand il s'équipe, il s'en met un premier dans la ceinture, un deuxième, un troisième derrière. Enfin, c'était ses habitudes. Et Mérine se retourne, le regarde. Et je crois que c'est la première fois qu'ils se rencontraient pour les taper. C'était le troisième mec qui les avait présentés. Et ils se tournent vers le troisième mec et ils disent « Putain, ton pote, c'est un porte-avions. C'est un vrai porte-avions. » Toute l'artillerie qu'il avait. Parce qu'en plus, Michel, il faisait 1m90, 120 kilos de muscles. Enfin, c'était une bête, c'était un morche, c'était un videur de boîte, quoi. Il était monstrueux. Alors lui, il avait un parcours très atypique puisque c'était un fils de famille, grandi entre Neuilly, le 17e, etc., qui avait été en des écoles privées, catho, il jouait du piano classique. Son père avait une petite boîte de savon, un petit industriel, et sa mère, elle avait un magasin de chaussures, rue des Acacias, à côté de l'Étoile et tout. Enfin, bon, voilà, rien de... Sa sœur est devenue journaliste, je dirais pas dans quel journal, mais dans un grand journal national. Et voilà, il avait même un frère, un demi-frère trader aux États-Unis. Donc c'est vraiment le mec qui avait... C'était par vice. D'ailleurs, je lui disais, mais pourquoi t'es devenu voyou ? Enfin, comment t'es devenu voyou ? Il disait, Jérôme, je suis né avec le 22e chromosome, celui du vol. Donc lui, il avait voilà, un profil totalement atypique, un type extrêmement cultivé. Et à côté de ça, un assassin notoire, hein, puisque c'est pas lui qui le disait, mais moi, les gens me disaient, on a compté, hein, Michel en a fait 17. Alors quand je lui disais, mais Michel, t'as tué 17 personnes, j'étais un assassin, il me disait, mais non, je ne suis pas un assassin. C'était de la légitime défense préventive. C'est des mecs, ils auraient voulu me flinguer, ou avec qui j'étais en conflit, donc j'ai pris les devants, et donc finalement, voilà, je suis pas du tout un assassin, c'est juste un contentieux économique mal réglé. Alors Ardoin, il s'est fait avoir, et on s'est fait avoir tous les deux. Bon alors moi, effectivement, j'ai fait une espèce d'œuvre. Ce que j'aime, c'est... Bon, c'est de l'histoire orale en tout cas, voilà. C'est la petite histoire qui m'intéresse, donc ça permet de la sauvegarder. Effectivement, Ardoin, on avait un copain commun. Un mec encore très bizarre, qui frayait entre le mercenariat, la barbouzerie, enfin des mecs. Et c'est toujours des mecs un peu étranges. Et Ardoin, il était au trou à cette époque-là, c'était en 2003. Il était à la prison de la santé à Paris pour une affaire de proxénétisme international dans laquelle il était innocent, je tiens à le préciser, et de machine à sous. Et ce garçon, on se connaissait comme ça, et puis le copain qu'on avait en commun lui écrit en prison et lui dit « Écoute, Michel, il y a Jérôme Pierrat qui voudrait faire un livre avec toi. » Et moi, ce couillon me dit « Tiens, il y a Ardoin, il voudrait faire un livre avec toi. » Bon, voilà. Donc chacun a dit oui, en disant « Bon, s'il veut vraiment, ok, faisons-le. » Et puis, bon, bah voilà, finalement, on l'a fait. Donc Michel, il s'est fait un peu piéger comme ça. Ça l'amusait, Michel, parce que c'était un conteur-né. C'était un mec, déjà, qui avait l'intelligence du récit, parce qu'il était malin, intelligent, cultivé, donc il avait le recul un peu pour raconter sa vie et avoir un regard là-dessus, sur ce monde. Donc ça, c'est le premier point qui était intéressant, il n'avait pas la tête dans le guidon. Et deux, c'était un conteur-né, c'est un mec qui aimait, c'est Pierre Bellemare, quoi. Le type, il aimait vous raconter des histoires à longueur de soirée. Donc... il les racontait très bien. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est que voilà, c'était une figure légendaire du milieu. Il avait traversé 4-5 décennies de grand banditisme, côtoyé les grands noms de ce monde-là, etc., les grosses affaires. Et puis, il avait vu son évolution. Enfin, voilà, donc il avait quelque chose à raconter. Et puis, il avait évolué en Champions League. C'est-à-dire, il était vraiment dans la première division du crime organisé français, du milieu, quoi, de l'APEC, du banditisme, on appelle ça quand on veut. Donc voilà, donc c'était pour moi un témoin privilégié. Et c'est sans doute le livre qui m'a le plus marqué. J'en ai fait pas mal avec d'autres voyous aussi. Avec les voyous, je me suis reparé, hein, c'est-à-dire je mets le magnéto et puis raconte, hein, affaire chronologique.
Raconte, crache les histoires.
La difficulté, c'est forcément de faire bien raconter l'histoire et puis d'aller au fond de certaines, parce qu'évidemment, ils sont toujours ok pour faire des bouquins, mais bon, il y a une certaine limite dans le récit et dans la confession. Donc voilà, il faut essayer d'aller plus loin, même s'ils raconteront jamais tout ce qu'ils ont fait, parce que bon, voilà. Parce que. Le voyou, il a par nature quand même un peu du mal à se confier, hein. Même s'ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'agent secret. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'agent secret. Le syndrome de l'agent secret, pour moi, c'est le mec qui a une vie extraordinaire, au vrai sens du terme, hein, entre guillemets extraordinaire, hein, mais qui peut pas la raconter. Alors, il travaille à DGSE, il est torse nu sous un ULM au-dessus de l'Ukraine, malheureusement, obligé de dire à sa femme qu'il bosse dans une crèmerie. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vont vivre le calibre à la ceinture, des histoires incroyables, hallucinantes, dangereuses, voilà, et qui, malheureusement, peuvent pas trop s'en vanter et les raconter, ou à part dans leur petit cercle et à leur nana. Et encore, c'est pas prudent. Et donc, du coup... quand il y a la prescription, quand il y a une manière de raconter les affaires aussi, on enlève des dates, on enlève des lieux. Voilà, hein, quand on lit les bouquins, on le sait que les dates sont pas forcément les bonnes, les lieux non plus. Mais voilà, il y a une envie de se raconter, comme je pense, au bout d'un moment, pour certains, et de faire sauter le verrou. Ils l'ont tellement fermé en garde à vue, en partout, etc., qu'il y a un moment, ils auraient dit « Oui, c'était moi, là. Allez, je te le dis, c'était moi. » Voilà, donc à nous de les accoucher et peut-être de faire sortir des aspects qui, eux, leur semblent... Parce qu'eux, ils ne voient pas forcément l'intérêt du truc, quoi. Quand on va leur parler de, je sais pas, mais raconte-moi pourquoi la République dominicaine est un hub de la cocaïne, j'en sais rien. Bon, lui, il va dire, qu'est-ce qu'il a besoin de nous savoir ça? Donc ça, c'est ce qui permet aussi d'avoir un peu d'infos journalistiques dans un récit. On ne fait pas que de l'anecdote de bistrot, hein. C'est aussi, moi, sous couvert de ça, ce qui m'intéresse, c'est aussi raconter un pan de la société, un pan de la criminalité, voilà, même si on peut avoir l'impression que ça peut être des anecdotes quand ce sont des biographies, des autobiographies. Mais c'est pas vrai. Et autant les autres peuvent avoir des privautés, on va dire qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas envie de dire, bon, voilà, sur lesquels ils vont passer rapidement. Et celui-ci, ça m'a marqué, parce qu'Arnaud, il a décidé de tout raconter. Il était un peu barjot, je crois. Et donc, c'est un type qui a plongé très vite, hein, d'abord un peu blouson noir, à 14-15 ans, les bagarres de bandes, de trucs, et puis qui était rentré dans la délinquance très rapidement. Vol, petit vol, cambriolage, et puis après, bah, braquage, beaucoup, parce que braquage, c'était le sport national des voyous dans les années 70. Donc, il s'y a donné beaucoup, rencontre avec Mérine. Enfin, voilà, après, il avait fait l'héroïne au début des années 80, hein, désolé, mais bon, c'était la mode, entre guillemets. Donc, lui, il dealait de l'héro, enfin, il avait tout un réseau. Je me souviens quand il a été arrêté, On avait même mis dans le livre des articles d'ailleurs. Il avait été arrêté avec un arsenal hallucinant qui avait fait flipper les flics. Il avait des sarbacanes avec des fléchettes enduites de curare. Il avait récupéré du curare, il faisait lui-même un fou furieux. Hein. Donc chez lui, je me souviens, à la photo du journal dans François, on voit les sarbacanes, les trucs, il avait enfin, un bordel, des gilets pare-balles, des flingues de partout. Enfin, un fou furieux, il adorait les armes et tout. Enfin bon, c'était, voilà, le mec était très haut en couleur, il était très méchant aussi, il pouvait être très très méchant, je l'ai vu faire vraiment des trucs, voilà, même assez des voyous, enfin bon, des trucs assez durs. Mais il nous avait fait marrer, hein. On avait été sur le tournage du film Mérine, parce que les mecs, ils n'avaient pas été très prudents. Langman, à l'époque, Thomas Langman, il avait produit donc le double opus sur Mérine, réalisé par Richet, avec Cassel, et dedans, il y a Samuel Le Bihan qui joue le porte-avions, dans le deuxième volet du film. Et les mecs avaient tout pompé dans le bouquin qu'on avait fait, personne n'avait donné un euro de droit, téléphoné, et ils font l'erreur de nous appeler, mais une fois que tout était... Pour dire voilà,
Samuel Le Bihan aimerait rencontrer Michel Ardoin.
Alors il m'appelle moi, hein, parce qu'il savait pas comment le joindre, j'appelle Ardoin. Michel, en bon voyou, qu'on avait rien à foutre, il me dit
Samuel Le Bihan, j'emmerde, j'ai rien à voir,
etc. Enfin bon, je suis désolé pour lui, mais. Et puis en revanche, il me dit moi, ils vont me payer. Alors les mecs, c'était assez drôle, ils l'avaient invité, croyant lui faire plaisir, ils l'invitent sur le tournage. Vers Saint-Germain-en-Laye, là-bas, ils avaient reconstitué les quartiers d'haute sécurité de la santé. Donc lui, il arrive là-bas, et puis ils lui disent « Bah Michel, est-ce que vous voulez visiter les décors ?» et tout. Il dit « Écoute, il est passé assez d'années en vrai, j'en ai rien à foutre de ta prison en carton. Allez où ta caravane ?» Je me souviens de l'expression. « Allez où ta caravane ? Il va falloir me faire un chèque. » Vous entendez la caravane de producteur. Et donc, les mecs « Ah bon ? Mais ouais. » Donc il était reparti, je crois. Je vais pas dire de bêtises, maintenant il est mort, hein, mais je crois qu'ils ont dû payer 50 000 euros ou 80 000 euros. Puis il leur avait dit « De toute façon, si vous voulez pas me payer... je vous envoie 200 caravanes de gitans demain, je vous bloque le tournage, etc. » Enfin bon, il aurait fait tout un cinoche. Mais c'était du bluff, le mec aurait jamais rien fait. Et le soir, il m'avait appelé en me disant « Ah, tu vas te marrer !» Ils m'ont cru, c'est con, comme si j'allais revenir avec des flingues tirées sur tout le monde là-dedans, etc. Il me dit « Oh, ça a marché, j'ai poussé un peu la voix, j'ai froncé les sourcils. » Et puis voilà, voilà, le mec, c'était un peu... Mais il était assez marrant comme mec. On l'avait longtemps soupçonné d'avoir tué Gérard Lebovici. Alors, je ne sais pas si ça parle aux plus jeunes, mais Gérard Lebovici, c'était un grand producteur de cinéma, le fondateur de l'agence Armédia, plus grosse agence d'acteurs de cinéma de l'époque. Il y avait Deneuve, tout le monde, Depardieu, Poiret, et j'en passe. Et il a été abattu mystérieusement, on n'a jamais su, dans un parking à l'Étoile de 4 balles dans la nuque. Au 22 long rif, c'est le calibre utilisé. Et Michel tuait les gens avec du 22 long rif. Donc pendant très longtemps, la police judiciaire parisienne l'a soupçonné. Ouais. Il a suivi pendant des années. Lui, il m'a juré ses grands dieux que c'était pas lui. Ah. Et l'éditeur qui avait sorti, on peut en parler, c'est Claude Durand, chez Fayard, qui était un éditeur mythique, qui est décédé aujourd'hui. Je lui avais proposé le bouquin, et ça s'appelait donc « Une vie de voyou », ce livre. Et il me dit « Ah, Jérôme, est-ce qu'on a toujours dit que c'est lui qui avait tué Gérard Lebovici ?» Il est au courant de l'histoire, parce que Fayard fait le prix du Quai des Orfèvres, qui a un prix de polar, avec des flics du 36. Donc, à l'occasion du dîner de remise de prix, ils avaient discuté, et puis les mecs lui avaient parlé de cette histoire. Donc j'appelle Michel, je lui dis « Bah écoutez Claude, je vais l'appeler devant vous, puis on va voir. » Donc j'appelle Michel, je lui dis « Moi, je suis avec l'éditeur. »
« Est-ce que c'est toi qui as flingué Gérard Lebovici ?»
Il dit «
Pourquoi ?»
Je me retourne, l'éditeur, il dit, et il l'entend. Il dit
« Bah si c'est lui, je mets 20 000 de plus. »
Il dit
« C'est pas moi, mais là c'est moi. »
Bah ça pas moi. Donc on a fait tout un chapitre sur Gérard Lebovici. Ce n'est pas lui qui avait tué Gérard Lebovici, mais en tout cas, il a dit à Durand « On va faire entre deux, tu vas mettre la moitié de l'argent. En plus. » Et je vais te raconter comment on m'a accusé et pourquoi on m'a accusé. Mais c'est vrai. Et effectivement, c'était assez troublant. Mais il m'a juré ses grands dieux, ce qu'à la fin de sa vie, que t'es pas lui. J'avais été à son mariage aussi, Arnaud, j'avais rigolé. Je vais à son mariage en Normandie. Il avait acheté une propriété vers Camembert, ça ne s'invente pas, en Normandie. Donc j'y vais accompagner, il fallait venir accompagner, tout ça. J'y vais avec la mère de mes enfants. Alors déjà, on arrive à la mairie, je me souviens que. On voyait tout de suite le seul mec honnête, hein. J'avais une Clio, moi, une petite Clio. Il n'y avait que des bagnoles, des BM, des Mercedes. Lui, il avait un Hummer, je me souviens, jaune, etc. Donc, bon, il y avait déjà ça, c'était assez drôle. Et puis, tout le monde avait fait des cadeaux. Et moi, les mecs m'avaient dit, tiens, Jérôme, est-ce que tu veux participer ? Donc, j'avais mis un billet. Mais je savais pas ce qu'ils avaient acheté. Enfin, une équipe de gars qui avait des copains à lui, je connaissais bien, pour des voyous. Hein. Et qui m'avait demandé, voilà, donc j'avais mis un billet, je dis, bah ok, je participe. Et puis voilà. Et donc, je me souviens très bien, on est dans le salon chez lui, dans cette grande maison en Normandie, puis il y a tous les invités. Tout le monde donne ses cadeaux. Il y a un mec qui sort de là. Mais c'était à mourir de là. Un mec qui sort un truc. On voyait que c'était un fusil. Qui était emballé dans du papier craft avec de la ficelle, mais il avait la forme du fusil. Le mec arrive. Il dit, tiens, Michel, c'est pour toi. Le mec n'avait pas ouvert le truc. Tout le monde a vu que c'était un fusil. Il a foutu ça sous le canapé. Hein, le mec repart. Alors, il y avait plein de trucs de mauvais goût parce que la femme qu'il avait épousée était une ex-prostituée du bois de Vincennes. Et il y avait toutes ses copines qui étaient là du bois de Vincennes. Donc, il y avait une cinquantaine de filles qui travaillaient au bois. Et alors, elles étaient venues avec des cadeaux kitschissimes, mais kitschissimes de déco. Bon, voilà. Et puis, arrive notre tour. Et donc, le mec s'avance et avec un énorme carton et tout, avec un paquet de cadeaux autour. Donc, moi, je dis, ah, bah, c'est le mien, ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Et là, Michel ouvre. Je sens un gilet pare-balles, un brassard police, un gyrophare bleu. Enfin, tout un bordel de faux flics, quoi. Au flic, pour ceux qui savent pas, ça sert à braquer. Ah, vous faites passer pour un policier, puis vous braquez les trucs. On appelle ça travailler aux faux policiers. Et donc, le mec ouvre ça, sort ça. Moi, je regarde un peu ébahi. Je me dis, bon, c'est moi qui ai quand même mis de l'oseille là-dedans. Super. Finir tous en prénom. Et puis, Michel a ce cri du cœur. Mais vraiment, il était touché. Il limite les larmes aux yeux, comme s'il avait touché un beau tableau, je sais pas quoi. Il leur dit, il nous dit, parce que j'étais dans le lot avec les trois autres gueules d'ange. Et il nous dit, oh les gars, ça me fait plaisir. Il m'avait tout pris à la dernière perquise. Donc, ça m'a touché aussi. J'étais content de lui faire plaisir pour le cadeau de mariage. Je me souviens à la mairie, personne rigolait. Les mecs, lui, c'était un mec qui rigolait jamais. On est à la mairie, le maire, il c'était un petit bled, il faisait des blagues. Alors, on était peut-être 200, quoi. Donc, que des gueules pas tenables, vraiment que des gueules. Hein. Là-dedans, à part moi, il y a vraiment que des tronches un peu dures, des gonzesses hallucinantes, des filles qui travaillent en camion, quoi, au bois de Vincennes et tout. Puis, on les repère un peu au look. Et donc, voilà, le tableau était surréaliste. Et puis, le pauvre maire là-dedans qui essayait de faire des blagues, genre, c'est un samedi après-midi, il faisait beau au mois de juin. Donc, le mec, c'est un mariage, hein, c'est heureux. Et les blagues qui tombaient, mais à plat, personne rigolait. Et Michel qui disait, on enchaîne, monsieur le maire, on enchaîne. Comme ça, avec une gueule. Et le mec, il était crispé à la fin, il était transpirant. Et si, il y avait un avocat qui était avec moi, je me souviens. C'était son avocat qui était présent. Et à la fin, l'avocat, on fait la photo devant la mairie. Une espèce de photo de groupe du mariage. Et l'avocat, il me dit, Jérôme, te mets pas dessus, là, il y a association de malfaiteurs. Et il est mort pendant l'enterrement d'un voyou. Ouais, pendant l'homélie du Curton. Enterré à Corse, à Paris, dans une église. Un mec qui avait été voyou, puis après qui avait tenu des bars, des restaurants et tout. Un vieux Corse. Et pendant la cérémonie à l'église, au premier rang, Michel était debout. Et il a fait, alors c'est pas un AVC, mais une espèce d'attaque cérébrale. Et puis il est tombé d'un seul coup par terre, et deux heures après, il était mort. Et sa femme, qui est une Corse, qui a le record de France de condamnation pour proxénétisme hôtelier, hein. Marie-Lou, on l'appellera, et on fait un livre en ce moment, à lire bientôt. Et alors Marie-Lou, elle m'avait fait rire, parce qu'à l'enterrement d'Ardoin, enterrement de voyous, hein, faut y aller, les enterrements de voyous, c'est toujours un grand moment, avec des vieux voyous, il y en avait même un, je me rappelle, en douche, j'avais pris une photo de ses pompes, parce qu'il avait des pompes bicolores, blanches et noires, comme dans les films Borsalino et compagnie, hein, hallucinant. Les manteaux, ce qu'on appelait manteaux poils de chameau, c'était beige, machin, enfin les trucs de voyous, il y en avait une dizaine. Et elle était venue, elle m'avait fait marrer. Elle me dit, Jérôme, elle m'appelle, elle me dit, Jérôme, j'ai pris un moine bouddhiste et une moniale pour la cérémonie. Je lui dis, mais Marie, c'est quoi l'histoire? Il n'était pas bouddhiste. Elle me dit, si, il avait monté le club yoga à la centrale de Clairvaux. La centrale de Clairvaux, c'est pour les longues peines, hein, c'est une prison. Et très dur, de haute sécurité et tout, il avait monté un club yoga là-bas avec un mec qui s'appelait Michel Vaujour, qui s'est évadé de la santé en hélicoptère avec sa femme qui était venue me chercher. Bon voilà, bah, eux deux, ils animaient le club yoga de la centrale de Clairvaux pendant des années. Et donc, une petite confusion entre bouddhisme, yoga, enfin... Et effectivement, alors je me souviens, il y avait la veillée du corps à l'hôpital Tenon à Paris, c'est un hôpital dans le 20e, juste à côté du cimetière du Père-Lachaise. Donc on se réunit là-bas, dans la chambre mortuaire, pour lui rendre un hommage avant de... Et effectivement, arrive un moine bouddhiste, on aurait dit Yoda dans Star Wars. Tellement il était petit, bon, il n'avait pas les oreilles pointues, mais le même. Hein. Yoda, avec une moniale à peu près la même, avec des crécelles et tout. Et ils ont commencé à psalmodier en tournant autour du cercueil. et je revois les 10 voyous. Un peu à l'ancienne, donc inutile de te dire que le yoga, le bouddhisme et tout ça, c'était assez loin d'eux. Et les mecs regardaient le truc en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces olibrius et tout ?» Enfin, c'était assez drôle comme scène, voilà. Assez surréaliste. Voilà comment a fini Michel Ardoin. Qui m'intéressait, c'est comment un fils de famille se retrouvait à tirer sur des gens à la sortie d'une boîte de nuit. Enfin, il avait, alors qu'il faisait du piano classique quand il avait 11 ans, il n'y avait pas de raison, Michel. Quand je parlais de sociologie ou d'anthropologie, au-delà du comment j'ai braqué la BNP de Saint-Mandé, dont tout le monde se fout, c'est pourquoi je l'ai braqué, comment à l'époque, etc. Ça s'inscrivait dans quoi, voilà. Parce que, comme avait dit le professeur Alexandre Lacassagne, père de la criminologie moderne, à la fin du 19e siècle, il a dit « La société, elle est criminelle qu'elle mérite. » Voilà, et c'est sans doute le meilleur adage. Donc, en observant ou la société ou ses criminels, vous arrivez à avoir un petit pan de vérité.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.